Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
En élisant votre patriarche, chacune de vos excellences est coresponsable de ce qui en dérivera, à commencer par l'avenir même de l'Église chaldéenne, de sa tradition et de son patrimoine. C'est avec ces mots que le cardinal Sandri a ouvert ce lundi le synode des évêques de l'Église chaldéenne au Vatican. Vous entendrez dans un instant le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Depuis le début du pontificat de Benoît XVI, les évêques du monde entier ont fait le voyage jusqu'à Rome dans le cadre des visites ad limina. Autre invité de marque de cette émission, le cardinal Marc Ouellet, le préfet de la Congrégation pour les évêques, a accepté de faire le bilan de ces 7 années de pèlerinage. Et puis à l'occasion de la 21e journée mondiale du malade, le pape accordera des indulgences spéciales. Un décret l'a annoncé ce lundi. Mais à quand remontent les indulgences et quel est leur sens précisément? Le père Daniel Moulinet nous l'expliquera et les professeurs de théologie à l'Université catholique de Lyon en France. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Je vous le disais en titre, la communauté chaldéenne est rassemblée au Vatican. Benoît XVI a convoqué le synode des évêques de l'Église chaldéenne à partir de ce lundi 28 janvier, avec pour objectif l'élection de leur nouveau patriarche après la démission pour raison d'âge du cardinal Emmanuel III d'Elie le 19 décembre dernier. Le synode de cette église, principalement irakienne, ne se tient pas à Bagdad mais au Vatican pour des raisons de sécurité. Olivier Bonnel.
Ils viennent de Bagdad, de Kirkouk ou de Mossoul, mais aussi de la diaspora d'Amérique du Nord ou d'Europe et représentent la diversité de cette communauté irakienne. Les 17 évêques venus à Rome vont devoir élire un nouveau patriarche de Babylone après la démission du patriarche Emmanuel III d'Elie au mois de décembre dernier pour raison d'âge. Comme les autres communautés du pays, les Chaldéens ont payé cher la guerre américaine lancée il y a bientôt 10 ans et le chaos sécuritaire qui s'en est suivi. Cette église qui comptait quelque 550 000 fidèles dans le pays avant l'invasion de 2003 et 150 000 dans la diaspora. Aujourd'hui, après un exode massif, les proportions sont presque inversées. Cette église chaldéenne que la tradition fait remonter à la prédication de l'apôtre Thomas et à un tournant de son histoire. Dans un Moyen-Orient où les chrétiens s'inquiètent de leur avenir, les défis sont nombreux. Comment prendre leur part dans une société irakienne fragilisée et toujours marquée par la violence? Faut-il fuir ou rester? Nous avons besoin d'un chef qui nous aide à voir l'avenir et qui rapproche les gens entre eux, estimait il y a quelques jours l'évêque de Kirkouk, Mgr Louis Sacco, un patriarche qui rassure une communauté fragilisée.
Ce synode s'est donc ouvert ce lundi matin par un discours du cardinal Leonardo Sandri, mandaté par le pape pour présider cette assemblée et ce vote. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a rappelé aux 17 évêques chaldéens réunis à Rome qu'ils sont tenus de respecter le secret électoral. Leur synode est à huis clos. Le cardinal Sandri leur a promis d'appliquer de son côté de manière impartiale les normes du droit ecclésiastique garantissant le respect de leur vote libre et responsable devant Dieu. La liberté de leur choix, sans conditionnement et sans pacte, c'est d'ailleurs un des trois aspects fondamentaux du scrutin à venir. Autre aspect essentiel souligné par le cardinal Sandri, les évêques devront voter devant Dieu, leur vote ne doit pas être subordonné à aucun autre intérêt. Enfin, ils doivent s'engager à donner leur voix au meilleur candidat selon eux, celui qu'ils jugent le plus compétent et digne de cette charge. Mais quel message le pape a-t-il voulu adresser de son côté aux membres de ce synode? Je vous propose d'écouter tout de suite le cardinal Leonardo Sandri.
Les espoirs du pape sont que dès l'élection du nouveau patriarche chaldéen, l'Église puisse avoir une énergie nouvelle pour rendre témoignage à Jésus-Christ et pour vivre la communion dans une ambiance difficile, une ambiance qui, dans laquelle prédomine l'écuménisme, la relation avec les autres chrétiens, mais surtout le dialogue interreligieux, spécialement avec les musulmans. Donc, que ce nouveau chef de l'Église chaldéenne puisse guider l'Église dans ces moments très difficiles, mais moments d'espérance et de reconstruction de la vie de l'Église et de la vie du pays.
Quelle est la situation de l'église chaldéenne?
C'est une situation difficile parce que l'église chaldéenne, comme l'église syro-catholique et l'église latine, elle se trouve en Irak, mais aussi dans des autres pays où la majorité est musulmane. Donc il faut vivre dans l'entente, dans la collaboration avec les appartenants à la religion islamique et surtout trouver les voies de collaboration avec eux, mais rendre toujours témoignage la foi chrétienne, qui est la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous appelle à l'amour et au service des autres. Donc c'est une présence dans ces pays de service, d'humilité et de témoignage.
Le cardinal Sandri interrogé par notre confrère italien Sergio Centofanti. Chacune de vos excellences est co-responsable de ce qui dérive de l'élection patriarcale, a enfin expliqué le cardinal Sandri avant de développer l'avenir même de l'Église chaldéenne, de sa tradition, de son patrimoine, la compréhension des temps et des situations ecclésiales, historiques et sociales, l'élaboration des orientations pastorales et de leur application. L'élection en tant que telle ne commencera que mercredi. Ce lundi, les évêques effectuent une retraite avant une journée de débats et de discussions mardi. Pour en savoir plus sur l'église chaldéenne, sur son histoire, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va. Depuis 7 ans, depuis le début du pontificat de Benoît XVI, les évêques du monde entier ont fait le voyage jusqu'à Rome dans le cadre des visites ad limina. En ce début d'année, un nouveau cycle de visites commence avec les évêques italiens. Le pape recevait d'ailleurs les évêques de Campanie ce lundi matin. Alors à quoi servent ces visites? Visites ad limina, ce sont avant tout des moments privilégiés de discussion et de partage entre le pape et ceux qui ont la charge d'un diocèse. Selon le droit canon, tous les 5 ans, les évêques diocésains doivent en effet soumettre au pape un rapport sur l'état de leur diocèse. Et bien sûr, les réalités sont très variées, que l'on vive à Calcutta, Belo Horizonte, Le Havre ou Cracovie. Des réalités qui témoignent de l'universalité de l'Église. Quels ont été les fruits de ces 7 ans de rencontre entre Benoît XVI et ses évêques? Nous avons posé la question au cardinal Marc Ouellet, le préfet de la Congrégation pour les évêques. On l'écoute.
Les fruits de ces rencontres sont avant tout spirituels. En venant à Rome, chaque évêque confirme sa propre profession de foi sur la tombe de Saint-Pierre. Un tel fruit a une valeur ecclésiale profonde parce que, à travers la rencontre de l'évêque et du Saint-Père, se renforce l'unité et la collégialité entre les évêques et le successeur de Pierre, et l'Église elle-même s'affermit dans la communion et l'élan missionnaire.
Alors, une attention toute particulière du pape a été celle envers les églises qui subissent des persécutions, des violences à travers le monde, et toutes les communautés chrétiennes qui ne peuvent pas jouir de la liberté religieuse.
La liberté religieuse est un thème vraiment fondamental parce que la liberté de professer sa foi a été introduite dans le monde par le christianisme. Cette année, nous rappellerons le 17e centenaire de l'édit de Constantin de 313, par lequel l'empereur accorda la liberté de culte. Une telle liberté appartient à la personne en tant que telle, et elle est le fondement de toutes les autres libertés. Ce droit doit être reconnu et établi juridiquement par les institutions civiles de chaque pays, et il engage tout homme à chercher la vérité et à y adhérer en organisant sa vie selon ses exigences. Ce droit de la personne appartient aussi aux communautés religieuses qui doivent pouvoir s'organiser et exercer leurs activités culturelles, éducatives et caritatives selon leur propre credo. La liberté religieuse, dont le bienheureux Jean-Paul II a été l'apôtre et le pionnier, doit être reconnue et promue pour tous, comme l'enseigne le Saint-Père.
Énormément d'évêques, de retour de leur visite ad limina et de leur rencontre avec le pape, ont été frappés par sa capacité d'écoute.
L'écoute est un trait caractéristique de la personnalité du pape, qui veut, comme pasteur universel, connaître et comprendre les églises confiées à chaque évêque. Cette écoute s'approfondit par les questions que le Saint-Père adresse aux évêques, questions qui concernent les situations particulières et la vie même des diocèses, dans un dialogue fraternel et sincère, comme il sied aux responsables de l'Église. Une des qualités qu'un évêque doit posséder est précisément la capacité d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Le pape offre à chaque évêque l'exemple de ce qu'est une véritable écoute pour ensuite conduire l'Église sur la voie du Seigneur.
Une dernière question, Éminence. Quelles ont été les impressions du Saint-Père après toutes ces rencontres avec les évêques?
Cette question-là devrait lui être posée à lui-même, n'est-ce pas? Il est difficile pour moi de donner une réponse exacte, mais j'oserais rappeler ce qu'il a dit dans l'homélie de la messe du début de son pontificat. Je le cite. « L'Église est vivante, l'Église est jeune. » Elle porte en elle l'avenir du monde et c'est pourquoi elle montre aussi à chacun de nous la voie vers l'avenir. Ce passage, je crois que le Saint-Père a pu constater tout au long des 7 années pendant lesquelles il a rencontré les évêques du monde entier, eh bien, il a pu constater cette vitalité de l'Église sur toute la terre. Cette Église qui, au milieu des souffrances du monde, demeure jeune, toujours jeune et belle par l'action de l'Esprit-Saint avec la force de l'Évangile.
Le cardinal Marc Ouellet était interrogé par Olivier Bonnel. Benoît XVI se dit consterné par la nouvelle. Dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 230 jeunes ont été tués asphyxiés dans l'incendie d'une discothèque de la petite ville universitaire de Santa Maria, au sud du Brésil. 116 jeunes ont également été blessés, un drame causé par un feu de Bengale et dont l'ampleur s'explique par la panique provoquée par les flammes, par les portes de sécurité du local fermées. Ce lundi, le pape a fait parvenir ses condoléances à l'archevêque de Santa Maria, à Mgr Elio Adela Rubert, dans un télégramme signé par le cardinal Berton. Benoît XVI exprime sa solidarité spirituelle aux familles des victimes, prodiguant aussi ses encouragements à tous ceux qui leur portent assistance. Le pape, on le sait, doit se rendre cet été à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est là que se tiendront les 28e journées mondiales de la jeunesse du 23 au 28 juillet, thème de ces prochaines JMJ. Un verset de l'évangile de Matthieu, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». À quelques jours de la 21e journée mondiale du malade, elle aura lieu le 11 février prochain en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Un décret a été publié ce lundi par le Saint-Siège. Il annonce que Benoît XVI accordera des indulgences spéciales aux fidèles aux conditions habituelles, confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du Saint-Père. Les fidèles pourront obtenir l'indulgence une fois par jour, à condition que vraiment pénitents et stimulés par la charité, ils se mettent au service de leurs frères souffrants et que s'ils sont eux-mêmes malades, ils supportent les douleurs, les adversités de la vie en élevant leur âme humblement vers Dieu, c'est ce qu'on peut lire dans ce décret. On le sait, la pratique de l'indulgence remonte au premier temps de l'Église, héritée du droit romain. Sa pratique remonterait au IIe siècle, mais en quoi consiste-t-elle vraiment? Le père Daniel Moulinet est professeur de théologie à l'Université catholique de Lyon. Il revient sur le sens des indulgences.
L'indulgence, originellement, c'était la réduction d'une peine donnée par un confesseur à un pénitent, une peine qu'il devait accomplir sur cette terre. Et puis, vers le XIIIe siècle, quand s'est développée la conscience de l'individu, on a vraiment pensé que chaque individu devait un jour être vraiment comptable de sa vie devant le Seigneur. Et donc, c'est là qu'a été inventé ce qu'on appelle le purgatoire. Et l'indulgence, c'est la réduction de la peine due au purgatoire. Alors, c'est un langage un petit peu difficile, peut-être difficile à entendre de nos jours, mais il faut bien se redire que la visée pour tout homme, pour tout être créé par Dieu, c'est la sainteté. Et donc, l'idée, c'est que quelqu'un qui, au moment de sa mort, n'est pas encore parvenu à la sainteté, eh bien, puisse, par l'intercession du Christ et des saints, puisse avoir, je n'oserais pas dire, ça fera un peu vulgaire, mais un petit bonus, en quelque sorte, qui lui permettrait plus facilement d'atteindre donc cet état qui est ce qu'on doit souhaiter de vivre avec le Seigneur. Et donc, l'indulgence, eh bien, c'est d'accorder la remise de cette peine éventuelle qu'il y aurait eu à accomplir pour atteindre cet état de sainteté.
Est-ce qu'il y a différents types d'indulgence ?
C'est Paul VI qui a souhaité simplifier, parce qu'autrefois, on avait une multitude de petites indulgences, 300 jours, etc. Et il a dit, bien non, il y aura deux sortes. Il y aura l'indulgence partielle et l'indulgence plénière. L'indulgence partielle, donc, remet une partie de la peine, et l'indulgence plénière la remet totalement, mais évidemment, il y a des conditions à remplir pour l'obtenir. Ça n'est pas quelque chose, bien sûr, d'automatique. Il y a une implication de la personne, vous voyez, ce qui est important.
Dans quel cadre sont délivrées ces indulgences ?
C'est le Saint-Père qui le décide. Donc, effectivement, là, pour la journée des malades, mais il y a d'autres cas. Le cas, peut-être, dont nous avons le plus parlé dans ces dernières années, c'est les années jubilaires. L'année jubilaire, alors qui est quelque chose qui remonte même au judaïsme, vous savez, le jubilé, c'était l'année où on effaçait toutes les dettes. Eh bien, cette idée a été reprise dans le christianisme. Donc, dans le cadre d'année jubilaire, eh bien, on peut obtenir l'indulgence plénière de ses péchés. Alors, pour cela, il faut visiter telle et telle église et s'être confessé et avoir reçu l'absolution, bien entendu.
Les critères pour l'obtention de ces indulgences ont évolué au fil des siècles ?
Globalement, non. Je sais bien qu'il y a une légende noire autour des indulgences depuis Martin Luther, mais globalement, pour les vivants, le critère principal, c'était véritablement la confession de ses péchés. C'est-à-dire, la confession, ce n'est pas l'énumération de ses péchés purement et simplement, c'est vouloir changer d'état de vie. C'est-à-dire passer d'un état de pécheur à un état de réconcilié. Et cela, ça n'a jamais changé. Alors évidemment, ce contre quoi Martin Luther s'est élevé, et non sans quelques raisons, il faut bien le dire, c'est qu'on disait que l'indulgence était applicable aux défunts. Et évidemment, le défunt, on ne pouvait pas le ramener devant un prêtre pour qu'il se confesse. Et là, eh bien, on invitait fortement les vivants qui voulaient prier pour un défunt de leur famille et de leurs amis à faire une offrande. Et là, vous aviez un moine dominicain nommé Tetzel qui avait trouvé une formule absolument marquante, qui certes publicitairement était bonne, mais théologiquement très mauvaise. Dès que l'argent teinte dans la caisse, l'âme s'envole au ciel. Et là, Martin Luther a vomi feu et flamme, non sans quelques raisons, contre cette formule. Mais le Concile de Trente a bien recadré les choses en invitant à ce que les indulgences ne soient pas une affaire d'argent, mais soient véritablement l'affaire de la conversion personnelle du fidèle.
Des propos recueillis par Olivier Tosserey, et sachez-le, si vous ne pouvez pas vous rendre dans un sanctuaire ou aux cérémonies prévues pour des motifs de santé ou de travail auprès de malades, sachez que si vous y participez spirituellement, lorsque par exemple les célébrations liturgiques et le message du pape seront retransmis à la télévision ou à la radio, ou alors que vous assistez vous-même charitablement des malades ces jours-là, vous pourrez toujours obtenir l'indulgence papale. Vous trouverez plus ample information sur notre site internet. Je vous en rappelle à nouveau l'adresse www.radiovaticana.va. Bientôt le carême. Le message de Benoît XVI pour ce temps de préparation à la fête de Pâques sera publié vendredi prochain. On en apprenait l'intitulé ce lundi. Croire en la charité suscite la charité. Nous avons connu et cru en l'amour que Dieu a pour nous. Une phrase tirée de la première épître de Saint Jean. Voilà, c'est hélas l'heure de se quitter. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission. Rendez-vous, même lieu, même heure.